Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast dont le thème d'aujourd'hui est partir à l'étranger et pourquoi. Et j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Wassim. Ouais. Bonjour Wassim.
Bonjour Tom.
Marie.
Bonjour Tom.
Et Dima.
Bonjour Tom.
Donc je vais commencer par la première question qui est une question très générale vous concernant, à savoir qu'est-ce qui vous a poussé à partir. Voilà, peut-être que tu peux commencer Wassim.
Ouais. Alors moi c'est plus une mobilité on va dire au niveau de la famille parce que j'ai en fait toute ma famille qui est d'origine marocaine, enfin qui est de nationalité marocaine et
d'accord.
qui est du Maroc. Mes parents ils sont arrivés, mon père est arrivé en France à l'âge de 20 ans et ma mère elle est née en France mais de parents marocains. Et en fait comme il y a toute la famille du côté de mon père et de ma mère qui sont encore au Maroc, chaque vacances on essaie d'y aller, on essaie d'aller voir la famille un peu. Histoire de voilà, faire le tour, mais après en même temps aussi de profiter aussi du pays.
Donc, voilà. Et en général, tu restes combien de temps là-bas ?
Vacances d'été, quand j'étais petit, je passais 3 mois. Je faisais juin, juillet, août. Et là, comme voilà, je travaille un peu les étés et trucs, je passe 2 mois, 1 mois.
C'est bien. Et toi, Marie, du coup, on peut savoir où est-ce que tu es partie ?
Alors moi, j'ai choisi de parler d'un voyage au Bénin qui était pour faire du volontariat dans une association qui s'appelle Crédit ONG.
Très bien.
Et ce qui m'a poussée à partir, j'avais déjà fait une sorte de volontariat. Bon, j'avais 14 ans, donc c'était pas vraiment, j'ai pas vraiment servi à quelque chose, quoi. En 2017, en Inde, et j'avais eu du mal avec cette expérience qui avait duré 1 mois. Mais pour autant, le désir de partir et de faire quelque chose et d'aider, il était vraiment présent. Même si on en parlera peut-être après, finalement, faire du volontariat, ça n'aide pas toujours le pays dans lequel on va.
Mmh, très bien. Et toi, Dima ?
Du coup, moi, je suis syrienne. Et après que la révolution syrienne avait commencé en Syrie, en 2011... la réponse de l'ancien régime syrien, elle était un peu violente. Donc ça s'est vite tourné en guerre et on a dû partir. Et du coup, je suis arrivée en France en 2017.
D'accord, ok, très bien. Et du coup, vous êtes partie seule à l'étranger ou pas du tout ? Par exemple, toi, quand tu es partie de la Syrie ?
Moi, je suis venue avec ma famille.
Ok.
J'ai eu de la chance.
Ok, très bien. Et toi, tu avais fait le choix de partir seule ou pas du tout ?
J'avais une amie qui était en service civique dans cette association déjà, donc je l'ai rejoint.
D'accord. Et toi, c'est pas... Non, tu parlais plutôt de ta famille tout à l'heure.
Oui, mais après, donc... je suis déjà allé cet été tout seul, c'est la première fois où je suis allé tout seul, et après j'ai rejoint ma famille.
D'accord. Donc en ce qui vous concerne, c'est toujours un choix que... par exemple, toi, c'est toujours préparé à l'avance, en fait.
En fait, on sait déjà qu'on va y aller l'été. C'est
okay.
tout le temps, l'été, des fois vacances d'hiver, mais on sait qu'on va y aller au moins une fois dans l'année.
Ok, c'est vraiment c'est à date fixe, ok, tu vas voir ta famille quoi.
C'est ça.
Et toi, du coup, tu choisis, du coup, ou pas du tout
De partir ?
Ouais.
Ça dépend des voyages, si on part de celui-là, oui, ça fait... Je cherchais depuis longtemps à faire du volontariat et c'est pas toujours facile de trouver... une association pour ceux qui n'ont pas de contact. Quand on cherche sur Internet, on tombe souvent sur des fausses annonces ou des annonces qui sont payantes. Ça
d'accord.
peut aller de plusieurs milliers d'euros même par semaine parfois. Et donc ça, ce n'est pas des vraies propositions parce qu'à aucun moment, on nous demandera de payer pour travailler. Et du coup, là, effectivement, oui, c'était prévu. Après, ça m'arrive de partir sur un coup de tête dans des pays d'Europe. Ça se discute.
Très bien.
Avec le prix de l'avion, voilà.
Et du coup, Wassim, toi, qu'est-ce que tu as appris d'autre qu'une nouvelle langue ici ?
Une nouvelle culture, on va okay. dire. C'est, par exemple, c'est un mélange. En fait, moi, il y a certaines personnes qui diraient que voilà, c'est. Oui, ils viennent d'ici, ils viennent de là, ceci, cela. Moi, je trouve que c'est une chance que j'ai eue de connaître 2 cultures différentes et de pouvoir en fait les mettre en commun, on va dire.
D'accord. Alors, t'as fait genre un mix de cultures ou pas du tout ?
Oui, en fait, par exemple, quand je suis en France, je suis plus ancré dans la culture française, mais je reste avec mes quelques habitudes du Maroc.
D'accord.
Mais pareil, quand je vais au Maroc, en fait, je garde quelques habitudes françaises, malgré que je sois au Maroc. Okay. En fait, c'est un mix des deux et moi, je trouve que c'est plus une force qu'autre chose.
Très bien. Et du coup, tu es dans le même processus. Toi, tu mixes un peu les deux cultures ou pas du tout
Je crois que ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut dire par mixer les deux cultures.
Ok.
Donc, par rapport à moi, je crois que on est obligé de faire un mix. On n'a pas le choix parce que la première culture d'où on vient, c'est vraiment ancré en nous. Ça ne peut pas partir, même si on va dans un nouveau pays, même si on apprend une nouvelle culture. Il y a des choses qui restent incarnées en nous. Et je crois que, oui, je fais un mélange des deux cultures. Et je crois que j'essaye de choisir ou de prendre ce qui me va dans chaque culture. Et je fais le mélange à partir de ça, si on peut dire ça.
Ok, très bien. Et du coup, toi, Marie, est-ce que toi aussi qui es partie à l'étranger, ça ne te manque pas, du coup, la culture française, peut-être, comme tu es plus rattachée au pays?
J'avoue que comme dans ma vie de tous les jours en France, je mange pas des baguettes ou des chocolatines tous les jours. Ça me manque pas spécialement. Après, c'est vrai que je suis partie en Erasmus 6 mois à Florence, donc qui est pas non plus complètement l'Italie, c'est pas l'opposé de la France, mais il y a des choses qui manquent un peu, mais ça reste pour moi culinaire et sinon, comme j'ai pas trop de routine en France, je m'adapte très très facilement, je pense, aux façons de faire là-bas.
Très bien. Et plus pour Dima, parce que toi, tu viens plus de l'étranger, c'est plutôt toi qui es venu ici en France. Du coup, toi, comment tu considères ton expérience ici en France?
Je peux dire que les premières années, les premières 4 ans, étaient vraiment très 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 dures. C'était très difficile.
D'accord.
Déjà, je me considère chanceuse que j'ai pu venir avec ma famille, mais il y a des nouveaux problèmes ou difficultés que tu dois penser à quand tu es avec ta famille, parce qu'il n'y a pas que des difficultés à toi, tes difficultés à toi, il y a les difficultés aussi que ta famille ont, et ça t'ajoute des tristesses, on peut dire, et des inquiétudes. Et du coup, c'était difficile parce que personne ne parlait le français, moi et ma famille. Et on devait tout apprendre de zéro. Vraiment, quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu n'étais pas préparé, à partir, tu es vraiment comme un nouveau-né à qui tu dois tout apprendre à nouveau. C'était dur. Je ne sais pas, c'était quoi ta question?
C'était ton expérience ici.
C'est ça, oui. Heureusement, il y avait des gens très bienveillants qui nous ont aidés, mais ce n'était pas toujours facile. Parce que tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement où tu ne connais rien et tu ne parles pas la langue, donc tu es perdu, tu as peur du futur, tu as l'impression que tu n'es pas assez bon parce que tu n'arrives pas à être comme les autres et tout ça. Mais bon, ça s'est réglé avec le temps, heureusement.
Et du coup, c'est bien, ça me permet de rebondir. C'est vraiment du coup ce côté, la difficulté d'arriver dans un pays étranger qu'on ne connaît pas en fait. Et peut-être que, pas toi, parce que du coup, tu as une bonne connaissance, je pense, du Maroc.
Moi, ça va, en vrai. C'était plus quand j'étais petit, j'avais plus de difficultés. Mais après, nous, par exemple, en France, tu pouvais quasiment pas sortir dehors et tout. Mmh. Alors que quand j'étais au Maroc, comme en fait, on connaissait, comme ma famille en fait, était dans la ville depuis bien longtemps et tout, tout le monde se connaissait, donc on me laissait sortir comme ça. Et du coup, j'apprenais de moi-même. C'est-à-dire tout ce qui était la langue, la culture, tous les trucs comme ça, j'ai quasiment appris moi-même. Ça veut dire que, par exemple, quand mes parents y parlaient, ou mes grands-parents, ou mes oncles, ou mes tantes, je demandais la traduction en français. Et en fait, à force, on apprend. Mais au début, ouais, c'était dur quand même. De pas comprendre en fait les autres et d'être là en fait. Par exemple, tu les vois rigoler et toi, tu sais pas de quoi ils rigolent.
Ouais.
Comme ça, un peu.
Ouais, je comprends. Tu sais pas, tu peux pas participer en fait avec eux, à la sociabilisation qu'ils ont ensemble. Qu'est-ce que du coup t'as trouvé le plus dur? Alors, parce que du coup, toi, je sais que tu es parti au Bénin, c'est ça, je me trompe pas?
Ouais.
Et est-ce que t'as trouvé que c'était dur du coup d'arriver dans ce pays inconnu pour toi?
Pas du tout, parce que comme c'était avec une association, c'était... Enfin, comment dire, j'y allais pour mettre la main à la pâte dans cette association. Donc, on me donnait des tâches que j'exécutais et c'était, c'était très facile. Il y avait un emploi du temps, tout ça. Après, ce que je trouve difficile quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est plutôt quand c'est du tourisme pur et dur et que bah, c'est... Je trouve ça vraiment difficile de jouer au bon touriste, c'est-à-dire ne pas... par exemple, en Thaïlande, c'est un pays qui est en train de... qui devient de plus en plus touristique, et donc de visiter le pays pour le pays et pas de se perdre dans tous ces hôtels à peu cher, toute cette nourriture occidentale qui est quand même proposée dans n'importe quel restaurant,
oui.
De pas voir les locaux comme des personnes qui sont... malheureusement toujours très très poli avec nous parce qu'ils savent qu'en fait l'économie du pays elle malheureusement maintenant elle repose vraiment beaucoup sur le tourisme. Donc essayer le plus possible de respecter le pays dans lequel on voyage, que ce soit ses habitants, son environnement ou sa culture.
Et est-ce que du coup vous avez pas peur que l'immersion dans une nouvelle culture du coup vous éloigne de votre culture d'origine? Par exemple Dima, toi qui maintenant habites en France, t'as la fois la culture syrienne, t'as dû t'habituer à la culture française. Est-ce que t'as pas peur de t'éloigner de cette culture syrienne, peut-être?
J'ai pas peur. Et en fait, c'est déjà arrivé. Et je crois que je suis un peu... Maintenant, je suis un peu éloignée de la culture syrienne. Je le vois pas négativement. Parce que moi, je suis convaincue que quand on est... touché par une autre culture ou quand on est changé par une autre culture, c'est que c'est notre choix. Personne ne nous a obligés à être changé. Donc c'était mon choix d'adopter des choses de la culture française que j'ai appréciées. C'était mon choix de changer des choses de la culture syrienne et de les enlever de moi ou de garder des choses que j'aimais bien à la culture syrienne. Donc non, ça me fait pas peur et au contraire... J'aime bien le mélange que j'ai maintenant entre les deux cultures.
Ok, donc toi, tu aurais plus un point de vue positif, en fait, sur ce changement de culture un petit peu.
Oui.
Ok.
Oui.
Est-ce que tu aurais des exemples de ce que tu as choisi de garder ou de ce que tu as choisi de changer de ta culture d'origine?
Oui, j'aime bien ta question. qu'est-ce que j'ai gardé, par exemple? C'est que, je crois, niveau personnalité... comment on peut dire, il y a des choses qui sont dans chaque culture, il y a des choses qui sont dans les personnes. Si quelqu'un aime bien aider les autres, si tu vois, je sens que c'est dans notre culture, c'est sûr, ça existe dans les autres cultures aussi, mais ça existe beaucoup dans notre culture de vouloir aider. Donc ça, je l'ai gardé, je crois. Et ce que j'ai pris de la culture française, c'est tous les autres, tout ce qui reste. Non, mais ce que j'aime bien dans la culture française, c'est l'honnêteté et qu'on peut être franche avec les autres. Et j'apprécie ça beaucoup. Et j'ai appris à être franche et honnête et ça m'aide dans ma vie. Ça me facilite la vie. Donc, je crois que c'est ça ce que j'ai pris de la culture française. Il y a aussi, bien sûr, d'autres choses, mais c'est ce que me vient à la tête maintenant.
Et du coup, toi, Wassim, tu te sens éloigné ou pas? Tu as eu un éloignement vis-à-vis de la culture marocaine ou,
non,
ou tu vis bien aussi?
Non, en fait, c'est... Comme j'ai dit, c'est un truc familial. Donc, dans tous les cas, ça reste, que ce soit la culture française ou la culture marocaine. Dans les deux cas, c'est un mix des deux. Et je sais que je ne perdrai jamais l'un des deux, en fait. Je serai toujours attaché aux deux.
Donc, tu as plutôt une vision positive, en fait.
Ouais.
Très bien. Et qu'est-ce qui t'a plu, du coup, quand tu es arrivé en France, dans ce nouveau pays que tu connaissais pas du tout
Bonne question. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que m'a plu, c'est que les gens étaient franches et ils sont directs et honnêtes. Et j'ai vraiment apprécié ça parce que j'ai toujours eu des difficultés dans ma vie de ne pas comprendre les gens qui sont pas directs et que après qui tu dois chercher, qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Donc ça m'a posé une difficulté dans ma vie avant. Quoi d'autre? La liberté. Parce que on n'a pas la même notion de la liberté en Syrie, que ce soit liberté d'expression, liberté de vivre, liberté d'être soi-même. Malheureusement, on n'a pas ça encore. Donc, j'aime bien ça en France.
Ouais. Très bien. Et toi, peut-être, Marie, du coup, qu'est-ce qui t'a plu, toi, quand tu es allée dans un autre pays ?
Au Bénin, par exemple.
Au Bénin, par exemple.
Au Bénin, particulièrement, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'a beaucoup plu, c'est leur humour, qui est très spécifique, apparemment, au Bénin et au pays aux alentours, le Togo, on m'a dit aussi, qui vraiment rigole tout le temps et quelque chose d'un peu plus universel, mais qu'on n'a pas nous dans les pays développés, un peu trop individualistes. C'est la culture de l'accueil, de l'entraide et aussi en fait de ralentir. Bah en fait, il n'y a pas besoin d'être toujours à fond, de se tuer pour. Pour des notions de réussite qui valent rien. Et en fait, on voit qu'ils sont... Enfin, y a une joie de vivre qui est dingue. Que je pense que toi, à chaque fois que tu vas au Maroc, ça doit t'augmenter tes batteries à 1000%, quoi. Parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on vit beaucoup moins dans nos sociétés, nous, qui recherchent le profit et donc qui perdent toute cette notion d'entraide et de bienveillance et de joie de vivre.
Ça te parle ce que tu es en train de dire, Marie ?
Oui, totalement. Ouais.
Tu peux en parler peut-être ?
En fait, quand
tu
arrives en France et au Maroc, tu vois qu'il y a un monde entre les deux, on va dire. Parce que là-bas, c'est, même quand tu n'as rien, ben, tu as tout en fait. C'est par exemple, quand j'étais petit, j'étais avec mes cousins et des amis. Par exemple, nous, on n'avait rien pour jouer au foot. On faisait avec, à partir de boules de plastique, on faisait un ballon et on était les plus heureux du monde. Donc, dans tous les cas. En fait, même à partir de rien, on donne tout.
Ok, d'accord. Et ouais, ce serait moins le cas en France, quoi. Mais du coup, ça fait partie de... Est-ce qu'on peut appeler ça, du coup, un décalage culturel ? Je sais pas, ou un choc culturel ?
Moi, je pense que c'est moins un décalage culturel que certaines sociétés qui ont peut-être perdu cette... Est-ce qu'on avait aussi avant cette culture de l'entraide et cette notion de... Non, en fait, si, je pense que c'est aussi quelque chose d'ordre culturel.
Et du coup...
Le temps, par exemple. Ouais.
Vous, est-ce que vous avez vécu quelque chose où vraiment vous avez eu un choc culturel il y a un choc culturel entre les deux pays, quoi. Il y a une vraie incompréhension. Tu aurais peut-être un exemple à nous donner, Marie ?
Je crois que oui, j'en ai un par rapport au Bénin, justement. L'association dans laquelle j'étais, qui s'appelle Crédit ONG, elle cherchait à montrer à la population locale qu'une autre agriculture était possible, plus respectueuse de l'environnement. Et ils avaient un espace où ils produisaient des lapins, donc de la viande de lapin. Et moi, j'arrive au Bénin le soir à 23h et le lendemain matin, je commence à travailler. Donc je vais dans cette sorte d'usine à lapins où il y a vraiment 10 lapins dans des micro-cages partout qui sont surélevés, enfin ils voient pas la lumière du jour, ils voient pas et moi je les cajole, je les caresse, je les nourris pendant une heure et après on me dit choisis deux lapins. Donc moi je choisis deux lapins trop mignons avec qui je m'étais bien entendue. Et en fait je me suis retrouvée 5 minutes après ça à tenir deux pattes de lapin dans chaque main et avec les lapins qui coulaient, qui pissaient le sang parce que devant moi on m'apprenait en fait à les égorger pour ensuite les dépecer et tout ça, et tout ça le lendemain matin en fait de mon arrivée. Et il y en a énormément qui ont été choqués par ça, mais en fait il se passe la même chose en France, donc finalement c'est juste que là-bas ça a été un choc pour beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient pas travailler là-bas par exemple. Mais en fait, oui, nous, on fait la même chose, juste on le voit pas.
Ouais, et puis peut-être, moi qui suis issu de milieu très très rural, j'ai vécu ça aussi, je te rassure, les lapins, les poules, bon, voilà. mais du coup, ça a été une vraie difficulté pour toi de t'adapter dans ce pays où... Après, peut-être que toi, tu n'y es pas resté assez longtemps, je ne sais pas combien de temps tu es resté...
Je pense que j'ai pas connu, comme t'as posé la question tout à l'heure, est-ce que, je sais plus quelle était ta question spécifiquement, mais oui, est-ce qu'il y a vraiment un choc culturel ? J'ai jamais été plus de 6 mois dans un pays étranger. Okay. Donc pour moi, il n'y a jamais eu de
question d'adaptation, il n'y a pas...
Oui, c'est ça.
toi, question adaptation. Parce que toi, tu es vraiment sur les deux profils, en fait. Ouais. Donc, l'adaptation, en fait, c'est fait de quoi il y a longtemps, quand tu étais petit, en fait.
Ah oui, vraiment. Quand j'étais petit, déjà, je suis né en France et tout. Donc, l'adaptation à la culture française, voilà, c'est comme ça. Je suis né en France, j'ai vécu en France, donc c'est tout à fait normal. Celle du Maroc, pareil, j'y vais souvent, je vois ma famille depuis que je suis petit. Mes parents sont marocains, donc oui, c'est quelque chose en fait où ça fait très naturellement.
Ok. Et toi, Dima, l'adaptation en France alors toi, tu es arrivé en 2017.
Oui.
D'accord. Et du coup, ça t'a pris combien de temps? Est-ce que ça a été plus ou moins difficile? T'as été bien accompagné, pas bien accompagné?
Bonne question. Je crois que je l'avais dit dans une question avant que oui, c'était difficile l'arrivée. Et les quatre premières années, on peut dire qu'ils étaient vraiment très durs à tous les niveaux, que ce soit niveau adaptation, niveau devoir apprendre la culture, devoir intégrer le lycée, devoir redoubler des classes que j'ai déjà fait en Syrie parce que je n'avais pas le niveau de français. Être en cours de français qui dure 3 heures et je ne comprends rien. Il y a tout le monde qui note et moi, je suis là, je ne comprends rien et j'ai les larmes qui descendent comme ça. C'était dur. Après, on était accompagnés, mais je peux dire que je crois il faut que les étrangers qui arrivent en France soient mieux accompagnés, surtout au niveau de l'enseignement de la langue.
Oui.
Parce que je trouve que c'est pas assez. Okay. J'ai fait une année pour apprendre le français dans un lycée, mais ça n'a pas été assez. Et même si moi j'ai dû être au lycée pour apprendre le français parce que j'étais pas encore majeure. Mais même, par exemple, il y avait mes frères et mes parents qui étaient majeurs et qui ont fait des formations pour apprendre le français. Ça les a aidés, bien sûr, mais c'était pas assez pour que tu arrives à vraiment t'intégrer dans la société française. Je trouve qu'il faut plus d'heures obligatoires pour aider les gens à avoir un meilleur niveau de français et pour faciliter l'intégration.
Très bien, mais je suis d'accord avec ça aussi. Pour conclure cette belle émission, est-ce que vous encouragez les jeunes à partir à l'étranger?
Oui.
Oui.
Totalement. C'est une expérience de vie en soi. C'est des moments que tu peux revivre qu'une seule fois. Il y en a énormément que tu peux revivre qu'une seule fois, malheureusement. Et ça reste des souvenirs, ça reste de très bons souvenirs, ça reste de l'expérience. Ça, des fois, il y a des gens qui, par exemple, reviennent de certains voyages, ils ont totalement changé.
Oui.
C'est une opportunité.
Ça te transforme. Mmh. Oui. Et tu es d'accord avec ça sur...
Totalement d'accord. Ça te transforme à 100%. Tu n'es pas la même personne du tout. Je parle de moi-même. Je ne suis pas du tout la même personne qui est arrivée en France il y a 7 ans, 8 ans. Et bien sûr, j'encourage les gens à partir à l'étranger. Et si c'est leur choix, je crois que c'est un très bon choix. Mais pour les gens qui vont partir à l'étranger ou qui ont dû partir et que ce n'était pas leur choix, qu'ils étaient obligés, je leur dis que même si c'est difficile, il faut en profiter parce que ça va vous changer la vie. Et il faut avoir un esprit qui est libre et il faut avoir une ouverture d'esprit aux autres. Et il faut vouloir apprendre et accepter les nouvelles choses pour pouvoir continuer. Sinon, vous allez rester au même endroit, vous n'allez pas pouvoir avancer.
Mais moi, du coup, en tant que Française privilégiée qui peut parler plus aux personnes qui ont la chance de pouvoir partir parce qu'elles le veulent, je vous conseille évidemment vraiment à tout le monde de voyager, que ce soit seul ou en groupe. C'est une expérience qui fait énormément grandir. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Surtout, enfin, il faut pas avoir peur de se tromper aussi, de partir pour son premier voyage avec un sac de 20 kilos et en fait de regretter absolument tout ce qu'on a mis dans son sac. Il faut pas avoir peur de partir sans tout planifier aussi, parce que souvent les meilleures expériences, c'est vraiment les expériences ratées. Par contre, s'il y a deux choses sur lesquelles je mettrais en garde, même si vraiment foncez, partez, ce serait sur le volontourisme. Donc j'en parlais en début d'émission, il me semble, sur le fait qu'il y a beaucoup d'arnaques entre guillemets, et que le fait de vouloir faire du volontariat à l'étranger, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Il faut vraiment vraiment y réfléchir, et en fait il y a un grand risque déjà de prendre le travail des habitants, en fait, qui peuvent très bien le faire nous-mêmes, enfin eux-mêmes généralement. En fait, nous, on n'a pas de compétences particulières à apporter, à part si vraiment on est salarié d'une ONG ou tout ça. Et ensuite, il y a des entreprises qui en font leur objet de vente. Enfin, c'est de faire semblant qu'on va aider, qu'on va sauver les bébés tortues. Et en fait, non, on ne sert à rien, même quand on paye pas parfois. Et il y a des histoires vraiment difficiles où, par exemple, des fois, on a l'impression de faire un mois de cours de français dans un orphelinat et c'est génial, on aide trop. Et en fait, à la fin, c'est pire parce que le fait que les enfants s'attachent à chaque fois à des nouvelles personnes, et qu'après ils soient arrachés, bah, en fait, c'est un traumatisme qui est encore plus dur, ouais, qu'avant qu'on soit arrivé. Donc ça, il faut vraiment faire attention, parce que souvent, on est plein de bonne volonté, et malheureusement, il y a des gens qui en profitent et qui le savent. Donc essayez de vraiment trouver des associations ou des gens qui peuvent vous conseiller là-dessus. Et ensuite, ce serait sur le surtourisme. Dans une période où on est à fond sur les réseaux et tout ça, enfin, il y a des destinations qui nous font vraiment envie, et qui, en fait, finalement, deviennent blindées de touristes. Et, c'est un enfer pour les gens qui vivent là-bas. C'est même pas forcément agréable d'y être, parce qu'il y a plein de monde, qu'on est tous confinés dans les trottoirs, et que c'est plus forcément agréable. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à fouiller, à aller dans des endroits random auxquels on ne s'y attend pas. Et en fait, ça va être magnifique, parce que ça devient un sujet. Même les gens, ils ne peuvent plus forcément se loger dans ces villes-là. Enfin, c'est mauvais aussi pour l'environnement, comme à Barcelone, à Florence. Et moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée à Florence, par exemple. Donc attention à ça. Une fois qu'on est averti, en fait, on peut y faire attention, et c'est assez facile.
Très beau mot de la fin. Je pense que notre émission va se terminer. Je te remercie, Wassim, d'avoir participé à notre beau podcast. Merci Marie. Merci Dima.
Merci à toi.
Merci à vous, ceux qui nous écoutaient et qui nous regardaient. Et on se dit à la prochaine fois sur un autre thème pour l'Instant Wipsy. Au revoir.
Salut.
C'était l'Instant Wipsy.
À bientôt.